Mercredi 7 octobre 2020, il est 18h à Niamey. Vous écoutez le studio Kalangou. Le journal vous est présenté par Assoumana Chine. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé hier de lever les sanctions qui pèsent sur le Mali. Dans cette édition, nous parlerons des impacts économiques occasionnés par cet embargo sur la vie des Maliens avec l'économiste malien Ablaye Traoré. Le Tchad a annoncé en début de semaine l'envoi d'un deuxième contingent militaire pour renforcer la force conjointe du G5 Sahel dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À suivre dans cette édition une analyse sur la mobilisation. En partie magazine de ce journal, nous parlerons des attentes des femmes à l'aube des échéances électorales 2020-2021 au Niger. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a levé hier les sanctions infligées au Mali suite à la nomination d'un gouvernement de transition le lundi. Ablaye Traoré, un économiste malien, nous parle des impacts économiques de ces sanctions de la CEDEAO sur les Maliens. Il est joint au téléphone par Rukayetou Abdraman.
L'impact des sanctions a été énorme. L'économie du pays était déjà soumise aux effets de la pandémie. Parce qu'avec le confinement et la fermeture des frontières, c'était d'abord très dur pour les denrées de première nécessité. Les prix ont grimpé de façon exponentielle. En 3 semaines déjà, on a senti. Un autre aspect sur l'État, c'était l'approvisionnement régulier du pays en carburant, en produits alimentaires, en produits pharmaceutiques et tout. Et avec le blocage des transactions financières, il était très difficile pour le pays de faire face, rien que pour payer les salaires. Donc aujourd'hui, avec la levée des sanctions, nous espérons que le pays va un peu souffler et que les populations qui ont subi la plus grande partie des conséquences vont commencer à s'épanouir un peu.
Évadé des mains de ses geôliers, l'adjudant-chef des eaux et forêts nigériennes Mabey Bado a regagné le territoire national ce mercredi 30 septembre 2020 après plus de 6 mois de captivité. Il a été enlevé dans le parc W par des individus armés lors d'une attaque qu'ils ont menée le 11 mars aux abords de la Tapoa dans le département de Saï, région de Tillabéri. L'adjudant-chef Mabey Bado a regagné sa famille en bonne santé, a déclaré le préfet du département de Torodi, Maman Abou, Jean au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Il est en bonne santé, il a déjà rejoint sa famille, il n'a aucun problème. D'ailleurs, il n'a subi aucun sévice. Ils étaient seulement séquestrés et tous. Ils n'ont pas vécu des tortures ou autre. On a bien échangé. Il est bien portant.
Est-ce que vous avez les nouvelles de son co-détenu?
La seule nouvelle, c'est qu'ils étaient détenus dans les mêmes conditions, sauf que lui, il a pu s'échapper. Donc, pour le reste des détails, il faut qu'on cherche d'abord. On continue avec en collaboration avec les FDS, Burkinabé et Nigérien, les autorités. Donc, toujours à chercher les sources d'informations qui puissent nous permettre de les localiser davantage, quoi. Sinon, pratiquement, ils sont quand même dans la même brousse entre le Niger et le Burkina, sans autre précision, parce qu'ils sont mobiles selon les circonstances. Ils changent de position en fonction des pressions des militaires. Je ne sais pas beaucoup plein de comment ils l'ont détenu en matière ou d'alimentation ou autre. Mais celui qui est séparé de sa famille et qui ne sait pas quel sort on lui réserve, donc il est torturé psychologiquement, il ne peut que maigrir d'ailleurs.
Bientôt, un deuxième contingent tchadien au Sahel pour lutter contre l'insécurité dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Pour Dr Diko Abdraman, spécialiste des questions sécuritaires, ce renfort apportera un changement dans la lutte contre l'insécurité dans cette zone, mais dévoile aussi un problème de leadership au niveau du G5 Sahel.
Cette initiative du gouvernement tchadien ne peut être que saluée dans la mesure où elle renforcerait un dispositif déjà existant, contribuerait certainement à ramener un minimum de paix dans la zone. Mais j'allais dire aussi que ce détachement de militaires tchadiens ne bénéficie pas véritablement d'un encadrement renforcé de la part d'une organisation qui est censée conduire ce genre d'initiative, c'est-à-dire le G5 Sahel. Nous sommes en train de déboucher sur une crise de leadership en matière de lutte contre le terrorisme et en matière aussi de lutte contre l'insécurité dans les trois pays. Et cette crise de leadership, en réalité, fait dévoiler un peu la grande désorganisation de la lutte contre le terrorisme dans la zone, puisque de toute évidence, moi je me dis que la guerre est devenue une entreprise qui fait rentrer d'énormes ressources et que le Tchad s'est réellement engagé dans la conquête de ces ressources-là. Moi je pense que c'est la seule justification de l'implication pleine du Tchad dans cette guerre. là sur tous les fronts malgré des ressources limitées dont dispose le pays.
150 kits scolaires, c'est le cadeau offert samedi dernier par le G5 Sahel aux enfants démunis de 12 écoles de la commune de Bankilari, frontalière avec le Burkina Faso dans le département de Tera, région de Tillabéri. Selon le capitaine Bouda de l'armée burkinabé, ces besoins ont été émis par les populations en cette veille de reprise des classes. Des propos recueillis par notre correspondant Youssoufou Ilewat.
Le G5 Sahel, en plus de sa mission régalienne qui est d'assurer la sécurité des populations, a une autre mission qui est de travailler au développement socio-économique des populations ainsi que des États. Et dans ce sens, nous avons instruit nos bataillons de pouvoir recueillir les besoins des populations. Et parmi les besoins, il a été noté un besoin de kits scolaires pour les enfants ici. Et c'est pour répondre à cette sollicitation que nous avons bien voulu offrir 150 kits pour les enfants les plus démunis dans cette commune de Bankilari. Ce geste modeste est plein de sens pour nous, en ce sens que cela travaille au renforcement de liens armée-nation.
La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue le 15 octobre prochain. Pour les syndicats du secteur de l'éducation, les conditions ne sont pas encore réunies pour la rentrée scolaire prévue à cette date. Les détails avec Alio Hassan Samna, coordonnateur des syndicats affiliés à l'International de l'éducation, section du Niger, au micro du studio Kalangou.
Au niveau de certaines régions, les affectations ne sont pas encore faites, les enseignants sont encore sur place et attendent toujours les décisions au niveau des directions régionales et au niveau des inspecteurs. Et aussi, il faut dire que certaines régions ont connu les inondations. Les classes ont été attribuées à des populations. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 7 octobre. Et allez-y, vous allez trouver encore. Les classes sont occupées par ces populations. Et le pire, les cahiers, les livres ne sont pas encore dans certaines inspections, encore moins dans les écoles. Sur le terrain, concrètement, les préparatifs ne sont pas achevés et que nous pensons que le gouvernement doit clairement donner une position puisque toutes les dispositions qui devraient être prises n'ont pas été prises. Donc pour nous, la rentrée, elle ne peut pas avoir lieu. Et si elle est maintenue pour le 15 octobre, certainement qu'elle sera, comme par le passé, une rentrée purement politique.
Un taux global de réussite de 33,76% au titre de l'année 2020 a été enregistré aux examens du baccalauréat. Des chiffres en nette progression avec un bond significatif de 7,20 points par rapport au taux de la session 2019. Et ce, malgré les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19. Le syndicat national des enseignants du Niger reste perplexe face à cette situation. Issoufou Arzika, secrétaire général du SNEN.
C'est impressionnant, compte tenu de ce que l'année a été, c'est très défaillant, surtout avec des résultats en hausse par rapport à l'autre année. Alors que l'autre année, quand même, c'était plus ou moins stable, ça va. Mais avec la COVID et tout ce qui s'est mis suivi pour l'année 2019-2020, on a des résultats soit au bac, en tout cas, les résultats semblent améliorés. Nous sommes un peu perplexes, parce que je suis convaincu que l'année n'a pas été aussi bonne. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Bon, les enseignants se sont véritablement donnés pour les classes des terminales. C'est la seule chose qui peut expliquer ça. C'est la seule chose. Mais pas la manière dont l'année a été conduite, pas la manière dont l'impact de la COVID avait été géré par les autorités. Non. La seule explication, c'est que les enseignants, comme d'habitude, se sont sacrifiés pour les classes de terminale.
À Dogondouchi, dans la région de Dosso, les filles abandonnent l'école à partir de 10 heures pour devenir des vendeuses dans les rues. Pour faire face à ce phénomène, la direction départementale de la protection de l'enfant de la dite ville a initié des rencontres de sensibilisation dans les quartiers et les villages environnants. Amadou Sajo, agent de la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Douchi, est au micro d'Abdoul Aziz Dayouma.
Nous avons initié un plan de communication. C'est la sortie dans les quartiers, dans les villages environnants, non loin du chef-lieu de la commune, pour pouvoir rassembler des gens. C'est une communication de masse. Et la communauté va regrouper les hommes, les femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, et tout le monde, même les personnes handicapées, ils sont concernés. Maintenant, quand on fait la sensibilisation, 1h10, c'est même trop pour que le message puisse passer. Et on a vu qu'avec cette méthode, le message passe beaucoup plus que par rapport aux orientations, au renforcement des capacités. Avec peu de moyens, tout le monde est informé. Les thèmes, il y a le viol, il y a aussi le phénomène des filles vendeuses. Ça a fait de sorte que les enfants abandonnent les collèges et l'école. À partir de 10 heures, les enfants ne sont plus à l'école.
Menace de grève générale dans le secteur des transports le 15 octobre prochain. Rendu public dimanche, cette grève de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger entend dire non à la décision du ministère des Transports qui, depuis le 15 septembre 2020, exige le permis de conduire biométrique aux usagers. Mahamadou Gamatché, le secrétaire général de l'UTAN, est au micro de Michel Deji.
Depuis quelques jours, la police nationale, sur instruction du ministère des Transports, est en train de verbaliser les camarades conducteurs sous motif qu'ils n'ont pas changé leur permis en permis dit biométrie. Dès la première heure, nous avons dénoncé et vous vous rappelez que la Halcia s'est vite auto-saisie et elle a sorti un rapport dans lequel elle a clairement indiqué qu'il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas respecté la loi. Face à la contestation, si vous vous souvenez, le Premier ministre a demandé de sursoir et on n'a pas vu un acte du Premier ministre signé qui a donné aussi l'autorisation de commencer à éditer ces permis. Seule une lettre de Carillo, et ça aussi nous avons dénoncé. Et ce n'est pas une grève uniquement pour les permis ou les plaques d'immatriculation. Nous allons rebondir encore sur la réduction des prix du carburant, les tracasseries administratives et policières de tout genre que nous observons ces derniers temps. Donc nous avons demandé à tous nos camarades de photocopier les contraventions et de nous les amener parce que nous allons saisir la justice.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Parti magazine à présent, au Niger, nombreux sont les acteurs locaux qui organisent des rencontres afin de sensibiliser les femmes sur le processus électoral. Quelles sont les attentes de ces femmes à l'aube des échéances électorales 2020-2021? Réponse dans ce reportage d'Olivier Assogbavi, rendu par Moussa Hassan.
Au Niger, à l'approche des échéances électorales, plusieurs acteurs locaux sensibilisent les femmes sur diverses thématiques en rapport avec le processus électoral. Issues de différents partis politiques, de nombreuses femmes sont venues assister à l'exposé de Mme Fomoko Eshetu, une des 5 femmes nigériennes à avoir remporté un siège de députée aux premières élections démocratiques organisées en 1993. Lors de cette rencontre, ce sont les attentes de ces femmes à l'aube des futures échéances politiques qui nous ont intéressées. Jamila Sahabi, jeune femme âgée d'une vingtaine d'années, attend des futurs élus une meilleure politique de protection pour les femmes.
C'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui, on amène les femmes à tendre beaucoup plus vers la politique. C'est une question d'inspiration. La politique permet de s'épanouir et de prendre conscience de ses droits en tant que femme. Je me suis fait enrôler, j'ai ma carte, j'ai tout. Donc j'attends uniquement les élections. En tant qu'électrice, j'attends à ce que notre prochain candidat ou futur élu, vraiment, il soit cet acteur qui pousse la population à plus protéger les femmes et les enfants.
Pour Fatoumata Sangaré, du côté des femmes mentors en politique de l'ONG Femmes Action et Développement, les élections futures doivent être une occasion pour faire émerger les femmes sur le plan politique avec une bonne représentativité.
Nos attentes, c'est de voir aujourd'hui la femme nigérienne émerger et plus de participation politique, dépasser le quota de 25%. Certainement, avec tout le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, nous osons espérer qu'il y aura une bonne représentation au niveau local et au niveau aussi des législatives.
À travers les générations, Mme Ben Wahab Aïchetou a donné de sa jeunesse au combat politique. Malgré son âge avancé, elle reste aux côtés des plus jeunes. Son attente, c'est qu'il y ait beaucoup de femmes au poste électif.
Toutes les femmes du Niger, elles sont battantes. Et ce n'est qu'un début. Il y a eu du progrès au niveau des luttes des femmes. Donc j'encourage la jeunesse. Elles sont fortes, elles sont instruites. Je sais que beaucoup de femmes vont gagner le terrain, que ce soit en législative, que ce soit au niveau communal, municipal.
Qu'elles soient électrices ou candidates, les attentes se rejoignent presque. Augmenter le nombre de femmes au poste de responsabilité politique. Et cela ne peut advenir qu'au bout d'une lutte intellectuelle et une parfaite préparation.
C'est la fin de cette édition. Au revoir.